Et c'est exactement ce que l'enseignement de Monod typifiait. Là, j'en viens à des choses qui sont de l'ordre du souvenir. Mais je crois que les souvenirs ici peuvent rendre un peu plus charnelles l'évocation que je fais. J'étais professeur en 1980, jeune professeur de philosophie. On était déjà quand même, ça fait déjà un certain nombre d'années. Et j'avais été l'élève d'Henri Corbin, dont nous parlions tout à l'heure. Henri Corbin est mort dans les moments de la révolution iranienne. Et alors que, ayant visité, pas visité, étant passé ensemble, je me tends les mains vers Philippe Nemo, car il était là, ayant passé ensemble plusieurs semaines en 1977 en Iran, en compagnie de M. Corbin, de plusieurs grands intellectuels iraniens ou français, et en compagnie de la reine, la Chabanou, femme extrêmement éclairée, eh bien, il était question que, simplement, que je renonce à l'enseignement en France et que je parte en Iran, M. Corbin, et disait, ben voilà, ben on vous attend. Car j'avais déjà le sentiment, que j'ai évidemment toujours, que l'on ne peut être soi-même et que l'on ne peut enseigner, y compris la philosophie, et j'ai enseigné la philosophie occidentale, hein, je m'empresse de le dire, les programmes, rien de plus, mais rien de moins. En Cagne pendant 35 ans, mais on ne pouvait faire cela qu'à la condition d'être justement à l'horizon spirituel du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ignorance n'est bonne. Et j'avais le sentiment que chez ces philosophes iraniens, encore vivants que je rencontrais, ces professeurs éminents, dans ces madrassas superbes, la madrassa de Shiraz, où avait enseigné un de mes auteurs fétiches, qui est Mollah Sadra, au XVIIe siècle, et quelque chose d'impressionnant. Il y avait quelque chose qui avait une affinité profonde avec notre Sorbonne, qui avait là rien, si ce n'est dans le style, si ce n'est en architecture, si ce n'est bien sûr dans le contenu d'enseignement, qui fut absolument étranger. Bref, qu'il n'y avait rien d'étranger dans la vie de l'esprit. Et c'est un sentiment que nous avions, je dis nous, parce que je crois que Philippe a un peu les mêmes sentiments, de curiosité constante, permanente, acquis de nos maîtres dans ce qu'était l'hypocagne et la cagne, dans un temps qu'aujourd'hui on espère voir revenir. C'est-à-dire cette idée que l'enseignement est fait pour stimuler la recherche personnelle, la curiosité personnelle, la lecture, et non pas pour produire des fiches, pour passer des concours, excusez-moi, de la manière la plus plate qui soit, y compris, je le dirais, en faisant de la méthodologie. Nous ne faisions nullement de méthodologie. Je n'ai jamais su ce qu'était faire une dissertation. J'en ai fait. Enfin, selon moi, une dissertation où on l'a réussi, où on ne sait pas la faire et on ne le saura jamais. Jamais Achille ne rattrapera la tortue. Et vous pouvez toujours dire à Achille comment attraper la tortue, ou bien vous le faites, ou bien vous ne faites pas. Et j'en viens du coup à ce qui m'a frappé chez Guy Monod et chez d'autres de mes maîtres à partir de ces années 80. Parce que j'étais aussi l'élève du chanoine Roch, qui est aussi à l'école pratique des hautes études, et enseignait les doctrines et méthodes du haut Moyen-Âge. D'abord, ceci que le commerce intellectuel, puisque le mot est écrit par Philippe, le commerce intellectuel est essentiel par l'exemple. Vous savez, traditionnellement, on distingue deux formes d'éthique. L'éthique des normes et l'éthique ou la morale des exemples. Ainsi, on peut se guider, c'est même très utile et important, sur des normes universelles, et on le doit, mais on peut aussi prendre exemple, je crois que c'est ça qui est d'ailleurs une des idées directrices de Nemo, sur des grandes figures. Et par exemple, dans l'éducation grecque, on savait qu'il fallait prendre exemple sur Achille, ou prendre exemple sur Héraclès, etc. Dans, d'ailleurs, le monde de l'islam, il en va ainsi. Hein. Il y a toute une littérature des exemples, et des exemples qui, souvent, ne sont pas du tout des exemples islamiques, qui sont des exemples de savants, de saints, ou tout simplement de poètes, voire même de personnages pittoresques, mais qui sont pittoresques, par exemple Socrate, qui sont vénérés, à l'égal des prophètes, tout simplement parce qu'ils ont été des champions de la vérité. Eh bien, ainsi était Monod. Il Et d'ailleurs, c'est une des règles de notre école des hautes études, que d'être ainsi n'était pas le seul, mais il le faisait avec une discrétion et une efficacité redoutables. Il n'enseignait pas autre chose que ce qu'il faisait. Il venait, il apportait les textes, par exemple, pendant 7 ans, nous avons travaillé sur à peu près toujours le même auteur, et il avait découvert un manuscrit qui est tout simplement le commentaire coranique de cet auteur, d'une très grande importance, je m'empresse de le dire, pas parce que nous l'étudions qu'il était important, il était réellement important. Et ce manuscrit était dépourvu de tout signe diacritique, même les points qui déterminent la nature des consonnes en islam. Donc on faisait du déchiffrement, ça relevait de l'opération de décryptage, comme on dit aujourd'hui, mais alors là vraiment c'était du décryptage. Il le faisait en une heure, quelquefois il arrivait à établir 2 lignes et demie. L'ouvrage fait 800 pages maintenant qu'il est édité. Eh bien, pendant 5 ans, il nous dit, voilà, nous sommes venus. J'étais professeur, je venais d'Auxerre, je prenais le train. À l'époque, personne ne songeait à dire, je suis loin, je ne viendrai pas. Évidemment, il n'était pas question de sécher. On venait et on se pliait à cette discipline de l'exemple. Et on savait ce qui était là, qui étaient aussi bien des jeunes que des moins jeunes, des adultes, des musulmans, des non-musulmans. On savait que le vrai savoir supposait cette humilité, cette perte de temps apparente, ce travail de fourmi. Mais ensuite, dans l'exemple, il y avait autre chose. Il y avait l'ouverture sur des questions elles-mêmes universelles, fondamentales, étranges, étonnantes. Et c'est ainsi que, à travers le travail d'édition auquel il a participé, auquel nous participions avec lui, d'un livre que vous pouvez lire en français, qui s'intitule « Le livre des religions et des sectes », ouvrage prodigieux dû à un auteur musulman nommé Charastani, qu'il a rédigé, on le sait, parce qu'il le dit lui-même sur un des manuscrits, il a fini de le rédiger en 1127. Eh bien, il nous montrait, Guimono, comment cet ouvrage, qui vraiment est fait pour n'intéresser que quelques-uns, eh bien, on avait affaire à quelque chose qu'on n'imagine pas, a priori. C'est-à-dire non seulement un fleuron de la littérature savante de l'islam, mais un livre unique dans la production, je cite Mono, écrite de l'humanité entière, toute langue et culture confondues, jusqu'à la naissance de l'histoire moderne des religions. C'est-à-dire que, avec patience, nous étions conduits pendant des années, je suis resté 10 ans, son élève, c'est ça aussi l'exemple. Il faut rester longtemps élève. Et même quand on a réussi ensuite, il faut rester élève. Moi, je suis resté au fond son élève pendant 35 ans. J'allais régulièrement au couvent, j'allais le voir. Mais il servait de modèle. Eh bien, à travers tout cela, Guimono nous montrait donc un livre qui, que vous pouvez lire, je donnerai les références si vous voulez, il est en 2 volumes, le lit en français aujourd'hui, grâce à ces 3 savants, dont lui. Ce livre, on peut lire quelque chose qui est unique avant Ernest Renan. C'est-à-dire qu'on a affaire à cette chose assez remarquable, sur quoi on peut philosopher, un homme appartenant à une secte musulmane, il est ismaélien, un iranien, Charastani, qui écrit en arabe un livre où il est curieux d'au moins 10 religions. Et il explique les dogmes de ces 10 religions, et sans parler du nombre de subdivisions, par exemple tous les courants internes au christianisme, les confessions diverses, avec autant d'honnêteté qu'il le peut. Mais ça vous donne d'abord confiance dans l'humanité, et ensuite ça vous inspire maintes réflexions. Voilà donc que nous, les modernes, nous ne sommes pas si modernes que ça. Des grandes idées comme concevoir de manière comparatiste l'histoire des religions, ces grandes idées ont été, avec plus ou moins de fortune, déjà professées par d'autres et par des gens qui ne passent pas à nos yeux pour des maîtres d'esprit critique. Et pourtant, si, voilà des savants qui sont des figures, des guides de liberté intellectuelle dans des âges autres que le nôtre, et qu'il faut connaître, qu'il est bon de connaître, ou même si ça n'est pas directement, mais en tout cas dont il est bon de connaître l'existence, parce que alors, cette chose qui nous paraît aujourd'hui très mystérieuse, du moins aux ignorants, c'est-à-dire les conflits entre les religions, y compris les horribles conflits d'aujourd'hui, mais aussi les mains tendues entre gens de diverses cultures, tout cela s'éclaire. Et quand ça s'éclaire, eh bien, l'esprit de paix l'emporte sur l'esprit de guerre. Car à la fin, c'est de cela qu'il s'agissait aussi pour nous. Qu'est-ce que voulait dire pour quelqu'un comme moi, je vous le dis franchement, s'engager, et maintenant ça fait, voilà, ça fait 45 ans, aller étudier, pour reprendre la formule qu'avait utilisée en parlant avec moi Monseigneur Lustiger, la religion des autres. Bon, il m'avait dit, mais on étudie alors la religion des autres. Parlez franchement. Qu'est-ce que c'est qu'étudier la religion des autres? Qu'est-ce que c'est qu'étudier la philosophie des autres? Qu'est-ce qu'étudier Platon à cet égard? Parce qu'il est aussi un peu notre autre. C'est un païen. C'est quelqu'un qui vit dans un monde qui ignore intégralement ce que peut être l'apport de Jérusalem. Et qui aurait été fort surpris. Mais qui avait lui-même une grande curiosité envers les Égyptiens, envers les Perses. Qu'est-ce qu'aujourd'hui se former comme professeur à l'image de tels modèles? Bien, c'est cela que je veux ici simplement évoquer chez ce maître, Monod, appelé Monsieur Monod à l'école, et je l'appelais mon père au couvent, c'est la règle. Eh bien, Monsieur Monod, ou le père Monod, donnait l'exemple, je reprends ce mot, d'une quête permanente à ce qui, non pas nous rassure facilement, aisément, ce n'est pas un homme qui se payait de mots, mais qui permet de concevoir que l'on puisse vouer sa vie non seulement à enseigner, je reprends le mot de vocation, mais à enseigner les autres, c'est-à-dire à faire que nous nous enrichissions, ce qui est le propre de l'Occident, d'ailleurs c'est sa capacité à le faire, de ces autres à travers l'histoire, à travers leur langue, à travers leur culture. Comprendre qu'il n'y a pas la philosophie des autres ou la philosophie de nous, mais qu'il y a les philosophies qui sont les expressions historiques de la philosophie. Qu'il y a en effet les religions. Et c'était très étonnant d'entendre Guy Monod, qui était un dominicain, un croyant, un catholique, on ne peut plus incontestable, dire souvent, alors avec beaucoup d'ironie, par exemple, enfin, ils sont extraordinaires, vos chiites, là, et nos chiites, parce qu'ils les aimaient beaucoup, ils disent de leur imam ce que Jésus n'a jamais dit de lui. Parce que dans les textes chiites, vous avez sans cesse le fait qu'il est, alors, non seulement le fils de Dieu, le maître du Shabbat, je parle de l'imam chiite, mais qu'il est Dieu lui-même. Et alors il me disait, mais regardez, quand même, nous ne disons pas cela. Mais ils sont très intéressants, ils parlent du Messie, ils parlent du... Et alors je lui disais, ben oui, là nous travaillons, je collectionne les textes, ce qui était vrai, sur les citations messianiques et évangéliques chez les chiites. Je signale d'ailleurs que ça n'est pas sans conséquence. J'héberge aujourd'hui, dans ma chaire, Hautes Études, plusieurs prêtres catholiques du Liban et de Syrie qui ont été chassés par Daesh, avant, j'espère, de pouvoir retourner, et qui préparent des travaux à la demande de leur évêque, mais je n'y suis pour rien, je ne suis pas l'évêque, sur les relations entre christianisme et chiisme. Donc, eh bien, il disait, voilà, ça c'est extrêmement passionnant, c'est de ça qu'il s'agit. Et inversement, ou autrement, il disait aussi, mais Dieu... Puisque nous nous occupons de l'histoire des religions, hein, donc je dis ça dans ce cadre. Dieu, évidemment, c'est une chose. Enfin, il ne disait pas ça comme ça. C'est le réel. Mais les religions sont humaines. Toutes les religions sont humaines, même la nôtre, disait-il. Il me considérait que j'ai faisais l'honneur de, là, bien de penser que j'étais pas peut-être pas totalement damné, mais j'étais philosophe. Il était philosophe, il était rigoureux, il ne considérait pas qu'on était catholique comme ça. J'étais philosophe. Mais mettons-nous au sens large, quand même, ceux qui ont été baptisés, bon ou mauvais, bien ou mal, etc., ce sont des hommes, et leur religion est humaine. Et donc, il avait cette humilité de considérer que dans l'étude, comme les philosophies sont humaines, comme les mathématiques sont humaines, comme tout le savoir est humain, il faut que le savoir soit toujours et indéfiniment acquis, car le savoir n'est pas la vérité. Le savoir n'est pas la vérité, il est le chemin vers la vérité. Et donc, non seulement il est bon de passer très longtemps à faire des tâches très humbles, mais il faut garder cette humilité jusqu'au bout, tout le temps. Parce que le jour où l'on pense que l'on a la vérité, je ne parle pas du domaine suprasensible et surnaturel, mais en tout cas dans l'humble tâche d'apprendre, là, on est fichu. Là, on est fichu. Et parce que tout simplement, on refuse désormais d'apprendre. C'est d'ailleurs ce qui caractérise très probablement le mal qui aujourd'hui affecte l'école, le dogmatisme, l'idéologie, on va dire ça, en effet, et la certitude épouvantable qu'il faut substituer à la science je ne sais quel pédagogisme ou je ne sais quelle chose de cette espèce, et qu'il faut transmettre non pas le savoir, ce qui ne veut pas dire la vérité, le savoir, c'est-à-dire le moyen d'accéder à la vérité, et non, il ne faut plus enseigner le savoir, mais il faudrait enseigner des compétences. Ce mot affreux, n'est-ce pas, de compétences. Mais on a de compétences, je ne sais pas ce que c'est que compétences. Quand est-on compétent ? Suis-je compétent ? Suis-je même compétent ? Là, en essayant de vous restituer tout cela, j'en sais rien. On n'acquiert pas de compétences. La compétence est ce qui, tout au long de la vie, savante, j'entends, de la vie professorale, de la vie d'élève déjà, est déjà en train de se constituer. Et cette compétence, ça n'est rien d'autre que l'inquiétude de la vérité dans l'acquisition du savoir. C'est cela qui, selon moi, a été la principale leçon de ce maître. Et j'en tirerai donc, pour conclure, quelques éléments, mais pas m'étendre davantage, d'illustration.